Bonjour Cynthia Wayon.
Bonjour.
Pourquoi peut-on dire que la crise dans le nord du Burkina Faso n'est pas seulement et exclusivement la conséquence d'un débordement de la crise qui touche le Mali voisin?
Effectivement, donc ce rapport qu'on a publié la semaine dernière montre que il y a en effet une instabilité qui déborde depuis le centre du Mali où la situation sécuritaire est compliquée depuis quelques années, mais que l'insécurité, les attaques qui sont en augmentation dans le nord du Burkina résultent en fait de causes sociales et de causes locales qui sont spécifiques à la province du Soum, qui est donc cette province qui fait partie du nord du Burkina et qui est l'épicentre de la crise.
Et quelles sont ces causes locales propres à cette province du Soum?
Alors, en fait, quand on regarde un petit peu l'origine du groupe armé, ou qu'on peut appeler groupe terroriste, comme Sarroul Islam, qui semble être l'acteur principal de cette insécurité, on se rend compte que dès 2009-2010, le fondateur de ce mouvement, Madame Ibrahim Diko, a commencé en étant un prêcheur non violent. Et donc, il prêchait de village en village, il prêchait à la radio. Il est devenu extrêmement populaire et connu dans la province parce qu'il remettait en cause, en fait, l'organisation sociale en vigueur. Une organisation sociale qui est fondée sur une autorité assez forte des grandes familles maraboutiques qui détiennent le monopole de l'autorité religieuse, l'autorité également des chefferies coutumières. C'est un peu en fait tout cet ordre social qui est finalement un produit de l'histoire spécifique de cette province qui est remis en cause et c'est ça qui vaut ou qui a valu en tout cas à ce groupe autant de popularité dans la province.
Au départ, c'est un discours non violent, des prêches non violents de la part de Madame Ibrahim Diko. À quel moment cela a sombré dans la violence?
Alors effectivement, il y a un basculement qu'on a du mal à identifier précisément. Alors autant le discours de Madame Diko lui a valu beaucoup de popularité, notamment parmi les classes sociales défavorisées et parmi les jeunes dans la province, autant ce discours a beaucoup déplu aux autorités locales, aux élites locales, aux élites maraboutiques que Madame critiquait. Et on a eu un moment où, alors c'est difficile de savoir pourquoi, mais Madame est partie au Mali, s'est probablement connectée à certains groupes armés, certains groupes violents dans le centre du Mali, donc qui est une zone très proche et voisine de cette province du Soum burkinabé. Et donc on a ce moment où il bascule et où la lutte armée, la clandestinité, le maquis deviennent finalement une solution attirante.
Et il y a également ce que vous écrivez dans le rapport, un fossé qui s'est creusé entre la population du Soum et l'État burkinabé.
Historiquement, la région du Sahel a longtemps été considérée comme délaissée par le pouvoir central. On considère qu'il y a peu de potentialité économique et donc l'État a très très peu investi dans cette région. On retrouve en fait aujourd'hui les conséquences de ce sentiment un peu d'abandon qu'éprouvent les populations, en ce sens que les populations sont très peu enclines à collaborer avec les forces de sécurité. C'est un petit peu la même chose au niveau des autorités, de l'administration, des fonctionnaires, qui très souvent viennent d'autres provinces et sont souvent perçus par la population comme un peu des corps étrangers qui cherchent plus à s'enrichir qu'à servir la population.
Et en quoi la chute du régime Compaoré il y a 3 ans a pu déstabiliser le fonctionnement des services de sécurité burkinabé?
C'était aussi une diplomatie, la diplomatie Compaoré, qui, en ayant des relations un peu particulières avec certains membres de groupes armés, du coup permettait de maintenir la menace hors du territoire. On sait qu'il y a certains leaders comme Yad Agrali, le Touareg malien qui dirige en Sardine, qui avait à un moment pignon sur rue à Ouagadougou, du moins qui pouvait circuler librement. Et c'était également un système de renseignement qui était basé beaucoup plus en fait sur des hommes. C'est un peu tout leur réseau de renseignement et d'information qui s'est effondré. Et aujourd'hui, on voit que les nouvelles autorités sont en train de faire des efforts, de mettre des choses en place, mais que ça prend du temps en fait pour reconstruire ces réseaux.
Et justement, quelle réponse apportent actuellement les autorités burkinabées face à cette crise?
On peut séparer un petit peu la réponse en deux. On a eu un effort militaire important avec des offensives au mois d'avril-mai. Ces offensives vont susciter un certain optimisme mesuré, mais on voit depuis fin août, début septembre que le nombre d'attaques n'a jamais été aussi élevé. Et donc cet effort militaire, s'il a permis une petite accalmie, elle a été vraiment de courte durée. À côté de ça, on a également une réponse, on va dire, non militaire, qui se concentre sur un effort de développement. Donc il y a un plan d'urgence pour le Sahel qui a été adopté par le gouvernement, mais qui semble contenir essentiellement des réalisations qui en fait étaient déjà prévues, que le gouvernement cherche à accélérer, parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience du côté des autorités que la réponse militaire ne suffira pas. Maintenant, quand on considère que finalement, les racines de l'insécurité sont sociales et en fait sont liées à une contestation, un désordre social qui règne dans la société de la province du Soum, c'est ni avec plus de soldats, ni avec plus de routes ou de ponts ou d'écoles qu'on va pouvoir résoudre le fond du problème.
Merci Cynthia Oyon.
Merci à vous.